Quelles sont les sources par le biais desquelles nous connaissons Giulio Romano?
Alors, il y a plusieurs sources. Il faut savoir que tout ce qui concerne la première activité de Giulio Romano est documenté simplement par Giorgio Vasari dans la vie de l'artiste. De Giulio Romano, nous savons évidemment qu'il vient de Rome. Son nom d'usage l'indique. Il s'appelle en fait Giulio Pippi, connu comme Giulio Romano, parce que l'artiste, à partir de 19, il commencera de plus en plus à signer Giulio Romano pour indiquer justement ses origines romaines qui étaient à l'époque assez prestigieuses, parce que Rome était Raphaël, la Renaissance. On sait, car c'est Giorgio Vasari qui nous le raconte dans la vie de l'artiste, que l'artiste était né au plein centre de la ville, dans un quartier qui est le quartier du Machel des Corvi, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qu'on peut localiser, disons, de la Piazza Venezia et de la Colonna Traiana. Donc c'est quelqu'un qui baigne effectivement dans la Rome antique de tout de suite. En ce qui concerne sa date de naissance, nous avons un grand doute, car les sources à ses propos ne sont pas d'accord. D'un côté, nous avons Giorgio Vasari. Disons que les sources concordent à dire que Giulio Romano meurt en 1546. Mais Giorgio Vasari nous dit qu'il est mort à l'âge de 47 ans, donc ce qui fixerait sa date de naissance en 1499. Alors que l'acte de décès qui a été retrouvé à une époque plutôt récente à Mantoue indique qu'il est mort à l'âge de 53 ans, donc cela repousserait sa date à 1492. Grand point d'interrogation sur la date de naissance, est-ce qu'il serait né en 92 ou en 99? Aujourd'hui, on penche plutôt pour la date de naissance fixée par Giorgio Vasari, car Giorgio Vasari nous raconte qu'on ne sait rien sur la première formation de Giulio Romano, mais on sait simplement que Giulio Romano commence à travailler aux côtés de Raphaël au moment où celui-ci est en train de peindre la chambre de l'incendie du bourg. Donc on peut penser autour de 13-14. Et Giulio Romano, dans la chambre de l'incendie du bourg, ce n'est pas seulement voilà, les jeunes garzones qui sont en train d'aider, disons, dans l'atelier, qui est en train de se former pour devenir artiste, mais c'est déjà un peintre à part entière, parce que c'est lui qui aurait peint les socles de la chambre où sont représentés les protecteurs de l'église. Donc des peintures de très bonne qualité en camailleux qui attesteraient quand même plutôt d'un artiste déjà, comme on dit, déjà formé, d'un artiste à part entière. Les premières années de Giulio restent documentées par les seuls témoignages de Giorgio Vasari qui nous raconte che praticamente au sein de l'atelier de Raphaël, Giulio Romano arrive à avoir un rôle de plus en plus important, qui s'affirme de chantier en chantier. Il commence donc dans la salle de l'incendie du bourg, tout de suite après il travaille toujours évidemment au sein des chantiers de Raphaël dans les loges du Vatican, en même temps il travaille dans la villa d'Agostino Chigi, donc des chantiers où, et là encore la confusion, on sait qu'il est l'exécuteur des peintures, et Vasari nous dit, et aussi le réalisateur de beaucoup de dessins. Maintenant, savoir quel dessin et pour quelle peinture, ça reste comme une question à discuter. Ce qui explique aussi toutes les grandes discussions des spécialistes autour de feuilles qui sont à la fois attribuées à Raphaël, à la fois à Giulio Romano. Mais on sait qu'au sein des grands ateliers décoratifs, Raphaël avait mis au point un système de travail qui est le même que Giulio Romano reprendra à Mantoue et même à Rome après la mort du maître, qui est un système où finalement les maîtres artistiques se réservent l'invention graphique et délèguent l'exécution à ses collaborateurs et élèves. Alors, ce qui se passe, c'est que pour Giulio Romano, que Raphaël aimait comme un fils, on assiste de plus en plus à une sorte de, comment dire, d'augmentation de confiance de la part du maître qui, à un certain moment, lui confie même l'invention graphique des détails de son décor. Ce qui fera de Giulio, évidemment, un artiste à part entière et un vrai maître dont la réputation est tellement établie à la mort de Raphaël qu'il peut en arrêter l'atelier et les commandes.
Quand Raphaël meurt, Giulio Romano est en quelque sorte l'héritier désigné et il va par la suite quitter Rome pour aller où? C'est la question. Et comment il va transformer cet héritage et comment il va occuper, disons, sa place au sein de l'histoire de l'art par la suite?
Giulio Romano, anche in 124, décide finalement de quitter sa ville natale. Je dis qu'en 124, donc 4 ans après la mort de son maître, Raphaël. C'est-à-dire qu'après la mort de son maître, il avait justement, comme Domenico, tu viens de le dire, hérité de l'atelier de son maître. Il n'avait pas hérité de tout seul, il héritait avec Gianfrancesco Peni, l'autre grand élève de Raphaël, disons qu'ensemble étaient un peu les deux personnalités qui s'étaient les mieux imposées au sein de l'atelier, à tel point que justement Raphaël leur avait confié des tâches d'exception, on peut dire. Mais pendant 4 ans, Giulio Romano ne quitte pas Rome après la mort du maître parce qu'il est en train de terminer les chantiers sur lesquels justement les maîtres s'étaient engagés avant sa mort. Et c'est seulement quand il aboutira à la réalisation de la chambre de Constantin au Vatican en 1524 qu'il pourra enfin décider de quitter sa ville, donc Rome, à la demande du marquis de Gonzague, le marquis Federico II Gonzague, qui était pressé d'accueillir à sa cour, à Mantoue, les grands élèves, disons les vrais élèves de Raphaël. Giulio Romano décide donc de partir de Rome et il se transfère donc à la cour de Mantoue, où il a envie tout de suite de reconstituer d'une certaine manière la même manière de travailler qu'il avait appris auprès de Raphaël. Raphaël, on sait donc qu'il travaillait avec un grand nombre d'élèves et collaborateurs, on peut les estimer autour de la 50aine. Et Giulio Romano est arrivé à Mantoue, il est jeune, c'est vrai, il faut le dire, mais c'est un artiste qui a déjà une grande personnalité et qui tout de suite essaye de s'entourer d'autres artistes locaux qui sont sur place, donc qu'il porte des connaissances et des savoir-faire qui sont propres à la tradition mantouane, notamment en ce qui concerne la réalisation des stucs, par exemple. Il organise un vrai atelier dans lequel chaque artiste pourra trouver sa place tout en répondant aux exigences du maître et en suivant surtout ses indications.